VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est midi à Nouakchott, 13h à Libreville. Bienvenue à notre journal. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari s'est engagé à prendre à bras le corps les graves problèmes du pays dans son discours après son investiture à la tête de l'État ce matin. Il a aussi promis de sévir contre ce qu'il a appelé les fous de Boko Haram. Les Nigériens ne vont pas regretter de nous avoir confié la responsabilité de l'État, a souligné le président Buhari. Ce dernier a assumé le pouvoir dans un pays ébranlé par la crise économique et les attaques du groupe islamiste Boko Haram, Claire Morin-Gibour.
Le parti de Muhammadu Buhari, l'APC, dit qu'il hérite d'un pays sinistré, doté d'une économie pratiquement à terre, à cause de la chute des cours du pétrole. En plus de la corruption qui gangrène le pays, M. Buhari va devoir résoudre les problèmes d'énergie chez le plus gros producteur de pétrole du continent, mais qui est privé d'électricité parfois des semaines d'affilée. La question sécuritaire sera un des dossiers brûlants qui attendent le nouveau président, avec l'insurrection du groupe Boko Haram, qui a fait plus de 15 000 morts depuis 2009.
Pour plus de détails sur les défis qui attendent le nouveau président, Idriss Fall a joint le docteur Cletus Iom, professeur à l'université de Bankokdi au Nigeria.
Muhammadu Buhari, le président élu, n'est pas nouveau en ce qui concerne l'administration du Nigeria. Il était une fois un chef d'État de notre pays, bien expérimenté. J'espère que lui aussi connaît bien les problèmes qu'il attend. On pense que Buhari est capable de bien faire et de bien réussir son travail de président du Nigeria.
Un des premiers plus grands défis, ce sera la sécurité, parce que Boko Haram est là.
Boko Haram est là, oui, bien sûr. Mais nous avons également une armée qui est bien expérimentée et qui a joué un bon rôle au niveau international. Notre avis, on n'a pas bien utilisé notre armée. Lorsque le gouvernement a été sérieux vers la fin de son régime, lorsque les élections s'approchaient, on a effectivement attaqué le province de Boko Haram. Et maintenant, on a capturé la majorité de leurs bases. Le problème est toujours là, mais pas aussi menaçant qu'avant.
L'autre problème, c'est la corruption. Le Nigeria est connu pour la corruption presque endémique.
Cela a vraiment contribué à l'incapacité du gouvernement qui va partir. Le gouvernement était vraiment corrompu. La corruption même est arrivée au niveau de l'armée. Donc voilà pourquoi c'était difficile pour le gouvernement de vraiment trouver solution à ce problème de Boko Haram. On espère qu'avec Buhari, ce sera différent. Parce que lui, il n'aime pas la corruption. Il a déjà manifesté cela lorsqu'il était le chef d'État de notre pays. Il a vraiment combattu contre la corruption et l'indiscipline. Et vous vous rappelez, War Against Indiscipline qu'il a introduit pour lutter contre ce dégât d'indiscipline-là. Nous espérons qu'il va vraiment s'attaquer à la corruption. Il a fait une grande promesse. Je pense qu'il va trouver une solution à ce problème.
Et aussi à la question du chômage, c'est le pays le plus peuplé du continent, première puissance économique, et l'ensemble, une bonne partie des jeunes n'arrivent pas à trouver du travail.
C'est une économie sur le papier. Le Nigeria a la plus grande économie en Afrique maintenant. Mais comment est-ce qu'on voit les effets de cette économie? Il n'y a pas de grands effets. Il y a le chômage, il y a beaucoup de gradués qui ne trouvent pas d'emploi. Il y a l'argent quand même, il y a l'argent. Il y a les individus qui sont même plus riches que le pays. Ils ne font rien pour améliorer la situation des paysans. La masse populaire souffre.
Le docteur Cletus Iom, professeur à l'université de Makurdi au Nigeria. Le ministre nigérian de l'Agriculture, Akinwumi Adesina, élu à la présidence de la Banque africaine de développement à Abidjan. L'élection hier du candidat du Nigeria, première puissance économique du continent, brise une règle non écrite qui voulait que la BAD soit toujours dirigée par des pays de petite ou moyenne taille.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
La guerre contre Boko Haram, 4 soldats tchadiens et 33 islamistes tués lors d'une attaque de Boko Haram sur le lac Tchad. C'est ce que vient d'annoncer l'armée tchadienne. Selon l'AFP, plus de détails dans nos prochains bulletins. En RDC, le président Joseph Kabila commence aujourd'hui des consultations politiques tous azimuts pour un dialogue aux contours encore flous. Une partie de l'opposition refuse d'y participer en qualifiant l'initiative de manœuvre du chef de l'État à qui la Constitution interdit de se représenter pour retarder l'échéance de la présidentielle de novembre 2016. Anne Albertson.
M. Kabila doit recevoir d'abord les chefs des confessions religieuses, puis les chefs coutumiers, avant de discuter avec ceux des partis politiques de l'opposition, puis de la majorité, des groupes parlementaires et regroupements politiques, pour finir avec les diplomates accrédités en RDC et le chef de la mission de l'ONU au Congo, a-t-on précisé de même source. La Commission électorale nationale indépendante a publié en février un calendrier électoral global prévoyant une série d'élections locales, provinciales, sénatoriales, devant commencer en octobre et mener jusqu'à la présidentielle et aux législatives programmées pour novembre 2016. Les trois grands partis de l'opposition estiment en substance que ce calendrier fait peser une grande incertitude sur la tenue de la prochaine présidentielle dans les délais prévus par la Constitution. Joseph Kabila est au pouvoir depuis 2001.
Au Congo-Brazzaville aussi, une grande partie de l'opposition fait la sourde oreille à l'appel au dialogue lancé il y a plusieurs semaines par le président Denis Sassou Nguesso. Des consultations préconisées lors d'une conférence de presse où le chef de l'État avait souligné la nécessité de ce dialogue inclusif au sujet d'une possible modification de la Constitution nationale. Le SACER, le service d'action civique et de résistance qui regroupe des opposants congolais à Paris, est résolument contre cette initiative. On écoute son président, John Binit Dzaba.
Tout ce qu'il veut, c'est rester éternellement au pouvoir et endeuiller les Congolais, enfamer les Congolais. Donc l'opposition dans l'ensemble a dit non, non au dialogue avec M. Sassou.
Si vous refusez le dialogue, qu'est-ce que vous proposez ?
Pour nous, M. Sassou doit partir. Il est à la fin de son mandat en 2016. Il va partir. Rien ne permet aujourd'hui qu'il se représente. Il est frappé par la limite d'âge, il est frappé par la limite de mandat.
Et peut-être que vous pouviez aussi le faire par le dialogue, non ?
Mais non, mais ce n'est pas possible. Il y a eu plusieurs dialogues. Tout est toujours biaisé par M. Sassou. Il y a eu beaucoup de dialogues au Congo.
Et si vous rejetez cette main tendue, est-ce que vous n'avez pas peur d'être accusé d'être radicaux ?
Mais non, monsieur. On ne peut pas être accusé de radicaux. Si M. Sassou veut vraiment un dialogue, ce n'est pas de cette manière-là qu'il veut le faire. Il envoie un courrier par son directeur de cabinet, une convocation comme ça, en une nuit, pour dire que le lendemain, il y a concertation. Mais pour qui Sassou prend les Congolais ? Et s'il parle de concertation, pourquoi il ne peut pas mettre un médiateur ? Pourquoi tout doit se faire autour de lui ?
Vous préférez un médiateur que le gouvernement de Brazzaville ?
Ben, écoutez, c'est préférable, parce que nous n'avons pas confiance à M. Sassou.
John Binit Dzaba, président du SACER à Paris, au micro de Bagassi Koura. Que peut bien faire une délégation militaire nord-coréenne en Guinée équatoriale ? Eh bien, le petit groupe qui a effectué le déplacement de Malabo compte former des jeunes du parti au pouvoir à l'animation musicale des cérémonies officielles. Plus de détails avec Bagassi Koura.
Sept militaires de la Corée du Nord sont à Malabo. Ils vont former plus de 127 jeunes filles et garçons du PDGE, le Parti démocratique de Guinée équatoriale au pouvoir. La formation, dont la durée n'est pas précisée, se déroule dans un centre d'instruction militaire. D'après lui, Ndongo Owono, responsable de la communication, le parti a déjà acquis le matériel, c'est-à-dire des trompettes, instruments de fanfare, etc., pour certainement mettre de l'ambiance aux cérémonies officielles. Le PDG doit tenir en novembre prochain un congrès extraordinaire pour désigner son candidat à l'élection présidentielle de novembre 2016. Théodoro Obiang Nguema dirige le pays d'une main de fer depuis son accession au pouvoir par un coup d'État en 1979. Il a été réélu en 2009 avec plus de 95% des voix. Son régime est souvent critiqué pour sa violente répression contre les opposants, les organisations de la société civile et les médias.
Le 65e congrès annuel de la FIFA est en cours à Zurich, en Suisse. Le président de l'organisation, Sepp Blatter, maintient sa candidature à un cinquième mandat malgré l'affaire des pots de vin révélée par la justice américaine. Mais l'ONU, pour sa part, revoit ses partenariats avec l'instance suprême du football dans le monde en raison du scandale, Eddie Sango.
Pour Stéphane Dujarric, porte-parole à New York, l'ONU a décidé de regarder de plus près ses partenariats avec la FIFA. La décision intervient après l'arrestation à Zurich des 7 responsables du football mondial dans des affaires de pots de vin. M. Dujarric a cependant affirmé qu'aucune décision n'a été prise quant à un éventuel arrêt de ses partenariats. Les Nations Unies, selon le porte-parole, sont très engagées dans l'utilisation du sport pour diffuser un message de développement et de tolérance lors des grands événements sportifs. Pendant la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, les fonds des Nations Unies pour l'enfance avaient organisé des espaces pour les enfants dans 3 villes sud-africaines qui accueillaient des matchs de football.
Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com et également sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.